Il s'affiche aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis. Et
c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, ça, et ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Une fois n'est pas coutume, je suis dans un atelier d'artiste. Aujourd'hui, je suis avec Adrien Da Silva.
Bonjour.
Bonjour. On est dans ton atelier, donc aux ateliers Ernest Michel qui sont hébergés par l'association Line Up. Donc, on est juste à côté de mon bureau. Et comme d'habitude, hein, on va parler de toi, de ton parcours, de tes influences, de ton univers. Il y aura toujours un petit morceau à mi-chemin. Et puis, on parlera de ton actu qui est plutôt riche en ce début d'été. Pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui t'ont connu comme Enaer, puisque maintenant tu es revenu à ton nom civil, oui. Bah, dis-nous un petit peu qui tu es. Raconte-toi.
Oui, raconte-toi. je suis Adrien Da Silva. Pour commencer, moi je suis né à Paris, à Maison Alfort, d'un père et d'une mère qui m'ont donné une très bonne éducation, beaucoup d'amour. Et. J'ai atterri dans le sud à l'âge de 7 ans et disons que j'ai toujours été attiré par la peinture, le dessin, l'art, l'architecture. Et disons que la peinture et l'art, c'est venu grâce à mon grand-père.
Okay.
Je parle souvent de lui, mais tout part de lui en fait. C'est, même lorsque ça ne m'intéressait pas des masses ou que je n'étais pas dedans, c'était toujours lui qui me parlait de Picasso, de Dali.
C'était un féru d'art.
C'était un féru d'art et surtout, c'était un peintre.
Okay.
Moi, j'ai réalisé mon premier tableau en 96, je crois, dans son atelier de peinture.
Ouais.
Et c'était... En fait, il me passait des bouquins de Picasso et moi, j'ai reproduit mon premier tableau. Donc, c'est pas un faux Picasso, c'est une mauvaise reproduction de Picasso avec les couleurs qui vont pas du tout.
Ouais.
Et c'est de là un peu que je me suis vraiment mis à faire des peintures, mais tout et n'importe quoi, de la BD.
Ok, tout ce qui te passait sous la
main. Tout ce qui me passait sous... Ouais, exactement. Après, j'essayais de m'inspirer de lui un peu. Lui, c'était plutôt des paysages, des peintures... c'était une technique au couteau, à palette.
Okay.
Oui, c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, ce premier tableau que j'ai réalisé, il l'a encore, quoi.
Excellent.
Oui, excellent.
Donc là, tu étais petit. Toi aussi, tu as fait un petit peu de graffiti,
oui.
Il me semble.
Oui, oui.
Comment t'y es arrivé?
Alors, j'y suis arrivé de par mes premières fréquentations montpelliéraines, en fait. Je me retrouve dans un groupe d'amis, je commence à sortir... Et il se trouve qu'il pratique le graffiti. Alors, moi, je découvre.
Mm-hmm.
Et ça me plaît énormément. Et là, je tombe à fond dedans. J'ai que des potes qui font du graffiti. Okay. Je fais que du graffiti. Même à l'école, ça allait pas très bien. Du coup, je me retrouvais à passer des après-midi entières dans le Verdanson, en fait, à peindre entre potes. Et... disons que ça n'a pas duré très longtemps. Après, on s'est fait un crew entre potes. J'ai fait un peu de vandale, mais je ne me considère pas comme un graffiti artiste, vraiment.
Ouais.
J'en ai fait. Je me suis éclaté. On s'est bien amusé. Mais disons que le virage important pour moi, c'est plus la création d'une association entre collègues. Et en parallèle de ça, il y avait un bar qui a été créé. En fait, ça s'appelait l'Old Dirty Bar,
mm-hmm.
l'ODB. Et en fait, les deux, ils fonctionnaient ensemble. Donc, le bar et l'assaut. Et nous, ce qu'on faisait, c'était nos premières expos, nos okay. premières peintures intérieures sur des grandes surfaces, on va dire. Et c'est de là qu'est partie l'idée de vraiment d'en faire quelque chose, quoi. Okay. Parce que ça a toujours été freestyle, faire des petites toiles, faire des petits graffitis. Mais là, ça prenait une dimension différente. Après, du coup, on rencontre des gens, mm-hmm. on rencontre d'autres patrons de bars, on fait d'autres ouais. bars, d'autres restos. Voilà, ça reste amateur, mais on s'éclatait. On avait, disons qu'on avait un objectif, un but, c'était de s'élever, enfin de faire élever le mouvement, quoi.
Ouais, ouais. Donc ouais. très très vite en fait. Enfin toi, dès le départ finalement avec ton grand-père, c'était déjà de la toile, enfin du dessin, avant de la pratique sur mur finalement.
Oui, alors après, j'ai pas toujours peint. En fait, moi j'ai fait des études d'architecture et pendant tout ce temps-là, j'ai un peu laissé tomber. Je faisais du graffiti, mais plus du tout de peinture, de dessin. J'étais plus du tout dedans. Mais aujourd'hui, grâce à ça, finalement, ça se ressent dans mes toiles. Je l'entends souvent me dire « Ah tiens, il y a quand même une inspiration un peu architecturale. » Donc ça m'a donné des codes. Mmh. Et où est-ce que je voulais en venir ?
Non, tu disais que tu n'avais pas toujours peint.
Oui, j'ai pas toujours peint et en fait non, c'est vraiment revenu avec cette idée d'association quoi. Mmh.
Ouais. Et double question, qu'est-ce que tu gardes de ce passage en graffiti ? Qu'est-ce que tu gardes de tes études d'archi du coup ?
Le graffiti m'a appris énormément de choses. Déjà, de peindre à une certaine échelle, en fait, de se retrouver à faire un graffiti qui fait 2 mètres de haut, mmh. d'essayer d'associer un personnage, un visage, c'est tout à une dimension complètement différente. Et du coup, déjà, ça apporte vraiment une bonne technique, une bonne gestuelle, de bien remplir un espace, en fait. Et après, pour l'architecture, disons que ce que j'en garde, c'est des choses importantes, des notions de perspective, des notions de proportion. Ouais. Ah ouais, c'est hyper important dans ce qu'on fait. Et moi, j'aime bien jouer avec les lignes. Je sais que je suis un peu matrixé par le nombre d'or. Mmh. Et ça se retrouve souvent dans mes toiles, quoi. Cet algorithme, on va dire. Ouais.
Mmh. Aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous que j'ai pu interviewer, t'évolues tant aussi bien dans l'espace public, dans la réalisation de fresques, que en atelier, en galerie ou en espace d'exposition. C'est quoi ton rapport justement à l'espace public ?
Alors, moi, comme je l'ai toujours dit, j'avais dit ça c'était à Juliette que tu as rencontré de Artistique Réseau. C'est Juliette ?
Oui.
Ouais. Et justement, je disais qu'en fait, de peindre à l'extérieur, ça favorise grave l'échange en fait avec l'extérieur, forcément. Mm-hmm. Mais justement, on se retrouve à peindre et t'as du monde qui passe derrière toi et c'est facile d'échanger. Puis ça fait plaisir, tu passes pendant des heures à peindre, à réfléchir, et si tu peux avoir un petit contact en bas du mur, ça fait toujours plaisir, quoi.
Donc lien avec le public, quoi.
Exactement. Ouais, c'est toujours bien. Même j'ai bien aimé le podcast de Scaro. Justement, ils parlent des enfants, qu'ils ont toujours une vision différente, ils font des réflexions très pertinentes.
Bah, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont sans filet, quoi. Ouais. Ce qui était intéressant, qu'ils disaient, c'est que les adultes, quand ils voient le début de la fresque, l'esquisse, ouais. Ils ont du mal à se projeter sur ce que ça va être après, etc. Donc lui, il leur dit, revenez
chez vous. Oui, alors on a des phrases toutes faites parfois.
Et les gamins, par contre, qui viennent, eux déjà, ils arrivent à voir des éléments qui sortent et il disait que c'était marrant cette perception, ouais. Cette différence en tout cas de...
Ouais, mais j'ai l'impression que peu importe ce qu'ils disent, bizarrement, ça retient un peu notre attention. C'est, en fait, ils vont avoir un axe en fait, que nous, l'adulte, on ne va pas ouais. avoir. Et du coup, c'est vraiment intéressant.
C'est ce qui ressort sur nombre d'artistes. Ouais. Ils disent des trucs comme ça quand ils sont confrontés aux jeunes et vraiment, même parfois aux petits-petits. Ouais. Qui en plus ont sans filet et qui disent ah bah tiens ça c'est ça machin mmh. Et toi tu l'aurais pas vu comme ça et tu dis ah ouais
mais oui
c'est marrant quoi
mais oui c'est pour ça il faut garder son âme d'enfant et oui et ensuite le travail d'atelier lui il est comme on dit, il est plus personnel. Disons que le travail en extérieur, enfin vraiment sur la forme, c'est plus, ça pourrait plus ressembler à des commandes ou essayer de s'associer à l'environnement sans le dénaturer. Et là, c'est vraiment de la création pure. Enfin, les murs aussi sont de la création pure, mais disons que là, le fait d'être 100% libre, c'est ça le vrai... C'est, je sais pas, c'est l'essentiel du travail.
Oui, parce que pour les fresques, en tout cas chez Line Up, la plupart du temps, vous avez la liberté de faire un peu ce que vous voulez. Il n'y a pas forcément toujours de direction. Mais c'est vrai que vous prenez quand même en compte l'architecture du bâtiment où vous allez peindre, en tout cas l'environnement, pour essayer de pas dénaturer, comme tu disais, et de plaire aussi au plus grand nombre, alors qu'en atelier, là, tu fais vraiment ce que tu veux, en fait.
Oui, on essaie de plaire aussi.
Oui, forcément.
Mais c'est fou, hein, parfois, juste un élément à rajouter ou à intégrer, ça... Je sais pas, je dirais que ça met le ton et il faut que tu composes avec ça.
Et justement, par rapport à ce côté commande, comment toi, tu... Enfin, quel est ton lien par rapport à ça? C'est-à-dire que, par exemple, tu réponds à beaucoup d'appels à projets, toi, par exemple.
Oui.
Est-ce que le fait qu'il y ait des thématiques, des fois, hyper bornées, tu vois, enfin, hyper précises, toi, en tant qu'artiste, dans ton expression, est-ce que c'est relou? Est-ce que...
Alors, parfois oui, parfois non. Disons que parfois oui, puisque l'axe, il est prédéfini. C'est bon, on a compris. Le thème, c'est les chevaux. Mmh. C'est les chevaux, par exemple. Mmh. Je donne un exemple bête, mais... parfois, il est tellement vaste que finalement, tu peux te perdre. Et moi, ce qui me dérange plus, c'est une modification de maquette que j'ai déjà réalisée, comme un retour, en fait, on va dire. Ça, c'est plus problématique parce que je mets quelque chose en place, je structure mon œuvre. Et à partir de là, il faut faire des modifications en gardant l'existant.
Ouais.
Et du coup, forcément, ça bouge. Il y a des éléments qui ne correspondent plus, qui ne me plaisent plus.
Compliqué. C'est compliqué tout en...
C'est plus compliqué de modifier après un retour plutôt que de réaliser à partir du thème de base.
C'est ça. Ouais. Parce que c'est compliqué de ne pas perdre l'essence aussi du propos de base, en fait.
Oui.
Et de ne pas dénaturer ta propre œuvre.
Oui, après, les appels à projets ont des thèmes ou non. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est... Soit tu y vas, tu te fais plaisir et ça te plaît. Soit vraiment c'est trop complexe, tu laisses tomber, puisque vraiment l'idée de départ c'est quand même de se faire plaisir.
C'est ça.
Faut aussi savoir se tirer les cheveux, mais, mais ça passe pas toujours, quoi.
Aujourd'hui t'as un univers hyper particulier, très figuratif, avec l'humain qui est quand même souvent au centre de tes œuvres.
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'es arrivé à développer cet univers-là?
Oui. Alors... là même, en partant des inspis même du début, moi, il y a quelque chose... Quand j'étais en archi, il y a vraiment deux artistes qui m'ont marqué. C'était Franck Noto, montpelliérain. Mmh.
Qu'on n'a pas encore invité, mais dont le nom revient à presque chaque épisode.
J'espère. et c'était Zoher aussi en deuxième. Mmh. Zoher Fred...
Battle.
Je ne sais pas si on dit Battle.
Battle,
bon.
Je pense. Ouais.
Et du coup, ces deux artistes-là, vraiment, ils m'ont impressionné parce que... C'est des graffeurs. Et d'un coup, je les voyais faire des fresques monumentales.
Mmh.
Et moi, ça m'a toujours impressionné de voir ça, même s'il y en avait d'autres qui faisaient, mais c'est vraiment ces deux-là qui m'intéressaient. Et du coup, moi, je pourrais dire que mon style, au départ, il ressemblait un peu à ces deux artistes. Donc, du coup, des personnages assez graphiques, des visages... des personnages sans visage, même carrément, ça représentait juste une croix, des traits de construction, et aussi des objets, des aplats de couleurs. Et du coup, je me retrouvais dans une ambiance à peindre des tableaux où j'avais un personnage central et moi je brodais autour en essayant de mettre des formes géométriques, qu'il y ait un aspect graphique.
Mmh.
Et ensuite, tout ça se transforme. Disons qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'inspi, c'est juste d'essayer de faire évoluer son art. Et moi, aujourd'hui, je peins des personnages. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un personnage sur le tableau. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Et l'idée, c'est que les personnages, ils composent l'œuvre plutôt que d'avoir un personnage et de composer autour.
Autour du personnage. Ouais.
Là, c'est vraiment c'est les personnages, la vie qui fait l'œuvre, quoi.
Et je vois, bon, je depuis 4 ans et demi maintenant, je vois ce que tu fais. Et tu as une palette de couleurs qui, j'ai l'impression, qui est de plus en plus épurée.
Oui.
Il y a moins de couleurs qu'avant. Bah, surtout sur l'expo que tu vas proposer bientôt, mais on reviendra là-dessus plus tard. C'est quoi le parti pris de couleurs là-dedans ?
Ben, au départ, c'est juste le... Moi, j'arrive dans les ateliers Ernest Michel en 2017. Avant, je peignais pas avec autant de couleurs. Mais c'est juste que d'arriver ici, de voir autant de peintres, de peintures, de possibilités...
Eh oui.
Et que je peux passer 100% de mon temps ici... Je sais pas, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller jusqu'au bout et essayer de mettre toutes les couleurs possibles.
D'accord.
Je sais pas, ouais, l'idée, c'est de s'éclater.
Ouais, ouais.
Et forcément, au début, t'es un peu foufou, tu veux prouver, tout ça. Donc, je me retrouve à mettre toutes les couleurs sur mes toiles, tous les effets, toutes les techniques. Mais du coup, c'est... Voilà, il arrive un moment où on comprend qu'il y a des éléments à enlever, essayer d'épurer, d'affiner. Et en affinant, bah forcément, on enlève des couleurs parce qu'elles nous plaisent plus, on enlève des techniques parce que... Pas qu'elles nous plaisent plus, mais juste...
Ça va pas avec la
démarche du moment. Ça, ouais, aussi. Et surtout, en fait, tu peux pas tout mettre.
Bah non.
Tu peux pas mettre... À un moment donné, il faut choisir, il faut faire des choix. Et si tu veux que ton œuvre soit épurée, simple, et qu'elle te plaise et qu'elle plaise au plus grand nombre...
Ouais.
Je pense qu'il faut se concentrer et essayer de comment dire, de faire vraiment ce qu'on sait faire, que ce qu'on maîtrise, quoi.
Bah après cette étape que tu dis, voilà, où tu as tout essayé, toutes les couleurs, toutes les techniques, etc.,
oui.
Je pense que c'est ça aussi qui t'a aidé
à
savoir
forcément.
Quelle technique tu allais garder.
Oui, après, tout s'apprend. Voilà, moi, par exemple, quand je suis arrivé ici, je faisais des visages, mais médiocres. Je sais pas, j'ai appris à dessiner des yeux, à peindre des yeux, des oreilles, des mains. Voilà, si demain, tu as vraiment envie de savoir peindre des mains ou dessiner, bah, tu t'y mets pendant un mois et tu vas y arriver. Après, le truc, c'est de ne pas le perdre.
Oui.
C'est ça aussi.
Il y a des choses, parce qu'aujourd'hui, tu es dans quelque chose de plus épuré.
Oui.
Mais il y a des choses que tu continues de faire pour pas perdre la main, justement.
Le dessin. Ouais. Le dessin, même si je dessine moins qu'avant, disons que même avant, je pensais que travailler dur, ça voulait dire dessiner tous les jours, peindre tous les jours, être tous les jours à l'atelier. Mais non, je préfère travailler intelligemment. Parfois, je peux passer une après-midi entière à l'atelier, à regarder mes tableaux, à regarder mes dessins. Et j'ai l'impression d'avancer plus vite, plutôt que d'être dans quelque chose de boulimique.
Mais ça, c'est quelque chose que vous faites, alors, en tant qu'œil extérieur, que vous faites tous, ce qui est parfois compliqué à expliquer au grand public,
ouais.
C'est cette phase où vous n'êtes pas activement en train de créer, c'est-à-dire en train de dessiner, de peindre, etc., et où vous êtes en train de discuter, où voilà, ça peut se passer une journée ou plus, où vous êtes à l'atelier, vous n'êtes pas en train de travailler, c'est-à-dire physiquement. Mais par contre, vous êtes en train de vous nourrir de tout ce qui se dit, des avis des autres, des discussions. Dieu sait qu'ici, ça discute.
Oui.
Et c'est hyper... J'ai l'impression que c'est hyper important pour vous, pour faire mûrir des réflexions, des approches, des démarches, tu vois.
Toujours, l'échange, il est hyper important. Enfin, c'est pour ça, moi, je dis, je pourrais pas avoir d'atelier tout seul. Non pas que j'ai besoin des avis de des autres.
Non, bien sûr.
Mais c'est juste que tu as besoin d'échanger, par exemple, sur... Je veux pas parler de peinture, mais sur ta manière de communiquer, je sais pas, peut-être une technique, une peinture, je sais pas, sur une marque de peinture.
Ouais.
C'est tout ça, c'est des petits détails sur les finitions, en fait, de comment tu vas présenter ton travail.
Oui, ça.
Mais après le, ce qu'il y a vraiment sur la toile, ça reste personnel.
Ouais.
Mais oui, là, tu donnais un exemple. Enfin, pour parler de Franck Noto, par exemple, c'est vrai que lui, son travail qui est basé sur l'énergie. Forcément, une réunion, une conversation entre amis,
ah
lui,
bah
c'est
oui.
Comme ça qu'il se recharge.
Complètement.
Moi, j'ai besoin de, de passer du temps à voir ma toile, à la prendre en photo, voir ce que ça rend en petit, la mettre en noir et blanc pour voir si les nuances sont bien équilibrées. C'est des petits détails tout bêtes, mais pour moi, ils sont tellement importants. Mais disons que c'est trop important de passer du temps devant son tableau sans bouger. Je suis pas en train de rien faire. Si, je suis en train de rien faire. Mais
dans ta tête, en fait, ça bouge.
Mais dans ma tête, non.
Eh oui.
Voilà, par exemple, le tableau que je suis en train de peindre actuellement, je l'ai terminé la semaine dernière, mais j'ai passé le week-end à regarder en photo, ici à l'atelier. Et finalement, j'avais un problème d'équilibre et là, je l'ai résolu.
Ça pouvait pas sortir à un autre moment, c'était à ce moment-là.
Ouais, je peux pas faire autre chose, je peux pas, voilà, j'ai beau me mettre devant une vidéo, un film, quelque chose. Non, c'est ça qui me perturbe, c'est ce truc, je sais qu'il y a un truc qui chie.
Mais tu sais pas quoi.
J'ai besoin de le... Ouais, je sais pas quoi.
Eh oui, donc t'as besoin de prendre le temps avant de le trouver.
Ouais, souvent le matin, je sais pas, quand on dit la nuit porte conseil, franchement, c'est vrai. Mm. Après, quand tu passes toute ta journée, toute ta soirée dessus, en fait, c'est bon, t'as la tête dans le guidon.
Oui.
Il faut aussi se faire
une
pause
pour soi,
faire une pause, et c'est ce dont on parlera du coup pour l'expo.
C'est ça. Ouais. Et justement, ça tombe bien parce qu'on va faire une pause musicale.
Très bien.
Avec le morceau Tata de Joa Papa Constantino, et puis on revient juste après. est de retour dans l'atelier d'Adrien Da Silva. Après ce morceau, pourquoi ce morceau du coup ?
Pourquoi ce morceau ? Parce que j'avais envie de vous présenter un artiste du Sud qui est du coup, il est peintre et musicien.
Ah !
Et il est connu, oui, il est assez connu. Mais j'aime bien sa musique, en fait, c'est les instruments, ça change un peu des ordinateurs, de ce que j'ai l'habitude d'écouter habituellement, donc le rap. Et là, justement, c'est une ambiance un peu plus tranquille, et ça représente bien le Sud.
Ok, une de plus
la Méditerranée, quoi.
Voilà, le Sud. J'ai sous les yeux le carton d'invitation pour l'exposition à venir à l'espace Saint-Ravi de la ville de Montpellier. Raconte-nous un petit peu cette expo, elle s'appelle Temps Libre.
Oui.
Dis-nous, qu'est-ce que.
Alors, du coup.
Qu'est-ce qui se passe dans cette expo ?
Cette exposition, elle se déroule. Elle va se dérouler à l'espace Saint-Ravi. Mm-hmm. Donc, le vernissage, c'est le 28.
Le 28, juin. À partir de 18h30. Ouais.
Et je suis assez fier de cette exposition parce que c'est la première fois que j'expose que je fais un solo show dans une galerie montpelliéraine. Mm-hmm. Et je l'ai appelé Temps Libre. Temps Libre, tout simplement parce que j'ai beaucoup tourné l'année dernière sur mes sujets, en fait, sur mes toiles. Et disons que aujourd'hui, ce que j'ai envie de représenter, c'est vraiment la liberté, en fait. Par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui, je veux pas être messager, je veux pas être porteur de messages, je veux pas influencer qui que ce soit, mais... Juste voilà, moi ce que j'ai envie de représenter, c'est, ou raconter en tout cas, c'est tous ces moments de temps libre en fait, où on fait autre chose que des tâches obligatoires, quotidiennes. Donc c'est une baignade à la rivière, c'est une sortie au marché, c'est plus des ambiances, comme si je voulais raconter une histoire, plutôt que des images à chaque fois figées. Ouais. En fait j'étais plus dans cette optique avant, c'était j'ai une expo, j'ai un projet, il me faut une idée. Là, disons qu'en ayant cette démarche, j'ai un fil conducteur et les projets, finalement, ils sont juste des étapes dans mon travail. Et voilà, donc...
je me rends compte que finalement, ce temps libre, ça fait un moment que tu le représentes.
Ouais, parce que j'avais pas la maturité, je pense, de
T'as pas attendu comprendre. Cette expo.
Ouais, mais pendant longtemps, j'ai cherché une idée pour cette expo, disons un fil rouge. Et j'ai toujours peint, du coup, des personnages, comme je disais, mais toujours dans une ambiance un peu rêveuse, un peu de vacancier. J'ai fait énormément de scènes de plage, par exemple. Et du coup, en regroupant toutes mes idées, tous mes dessins, c'est comme ça que l'idée elle est venue. Mais c'est juste que j'avais pas ouvert le clapet dans mon cerveau, en fait. Moi, j'étais plus sur, sur de l'image.
Ouais.
J'arrivais pas à me dire j'ai quelque chose à raconter.
Alors que finalement,
j'ai un peu grandi, j'ai des choses à raconter.
quand tu parles de vacances, rien que ça, en fait, finalement. On était déjà sur du temps libre. Si on regarde les œuvres que t'as fait avant, c'était peut-être pas les mêmes ambiances, mais on était déjà sur cette idée de raconter ce que font les gens hors, comme tu dis, le métro boulot dodo, voilà, les moments où tu fais rien, où tu fais quelque chose pour toi.
Oui, parce que, comme je dis, c'est que j'avais pas... Pour moi, c'était... Voilà, quand je faisais des scènes de plage, c'était la plage.
Ok, d'accord. Tu le voyais pas comme l'ambiance du moment, quoi. Tu voyais comme une scène de plage.
Ouais, si, l'ambiance du moment, mais juste, ça concernait que la plage, quoi. Alors que là, en fait, je suis plus sur quelque chose qui représente le week-end, le dimanche. Cette expo, j'aurais très bien pu l'appeler un week-end, quoi.
Oui.
C'est profiter du temps libre, en fait, qu'on peut avoir. Et puis, ça peut être des moments d'intensité dans la rue, des regroupements. Ça peut être aussi la solitude.
Ouais.
Se baigner tout seul au bord de la rivière, ça reste un moment qui correspond à l'expo. Et du coup, ça correspond à tout le monde, quoi. En tout cas, je pense que j'ai réussi à... Enfin, on verra le vendredi 28 juin si j'ai réussi à parler à tout le monde.
Je rappelle, du coup, l'expo, elle s'appelle Temps Libre. Le vernissage, c'est vendredi 28 juin à partir de 18h30 à l'espace Saint-Ravi à Montpellier. L'expo, elle sera visible, du coup, dès le lendemain, du 29 juin et jusqu'au 21 juillet. Pardon. Et on arrive, du coup, à la conclusion de cette émission.
Très bien.
Le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c'est...
Venez à
mon expo.
Faites plaisir, surtout, venez à l'expo.
Faites plaisir et faites-vous plaisir, surtout.
Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Adrien, cet épisode. Et à très bientôt sur Divergence.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
Et c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphie, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir... les graffeurs comme des délinquants, on s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.